Jesus Christus.
Les Juifs ultra-orthodoxes ne seront plus exemptés de l'armée en Israël. Ainsi en a décidé la Cour suprême ce mardi. Une décision très symbolique qui intervient en pleine guerre à Gaza. Nous retrouverons notre correspondante à Tel Aviv au début de ce journal. La libération de Julian Assange, le ressortissant australien, a passé un accord avec la justice américaine pour ne pas être extradé vers les États-Unis. La fin d'un long combat judiciaire pour le lanceur d'alerte fondateur de Wikileaks. Nous entendrons la satisfaction de l'ONG Reporters sans frontières. À la une de ce journal également, les ressortissants philippins qui vont pouvoir de nouveau venir travailler au Koweït. Et puis nous irons aussi aux États-Unis qui s'engagent à une nouvelle aide envers les Ukrainiens. Pas d'armes cette fois-ci, mais la fourniture de manuels scolaires.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, c'est donc une décision très symbolique rendue ce matin en Israël. La Cour suprême ordonne la conscription pour les étudiants des écoles talmudiques. Jusqu'ici, les juifs ultra-orthodoxes étaient exemptés de l'armée et le débat divisait profondément la société israélienne. Cette décision de la plus haute instance judiciaire de l'État hébreu intervient évidemment en pleine guerre dans la bande de Gaza. À Tel Aviv, les précisions de notre correspondante Julia Ganantia.
La Cour suprême d'Israël a décidé à l'unanimité ce mardi que les étudiants ultra-orthodoxes ne devaient plus être exemptés du service militaire. Les juges expliquent, au plus fort d'une guerre difficile, le fardeau des inégalités est plus prononcé que jamais. Fin de citation. La question de la conscription des ultra-orthodoxes est devenue effectivement sensible alors que l'armée israélienne, essentiellement composée de jeunes soldats et de civils réservistes, est mobilisée dans la bande de Gaza et à la frontière libanaise contre le Hezbollah. Une décision qui pourrait mettre à mal la coalition gouvernementale de Benjamin Netanyahou, car si l'opinion publique est favorable à la fin des exemptions, son gouvernement inclut deux partis ultra-orthodoxes qui pourraient, s'ils quittent la coalition en signe de protestation, déclencher de nouvelles élections. Les étudiants des écoles talmudiques sont exemptés de service militaire en vertu d'une décision datant de 1948. Elle concernait alors plusieurs centaines d'étudiants. Ils sont aujourd'hui plus de 65 000. À Tel Aviv, Julia Ganantia pour Radio Vatican.
La défense civile palestinienne a, elle, annoncé ce matin la mort de 10 membres de la famille du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, dans une frappe israélienne sur un camp de réfugiés situé dans la ville de Gaza. Ismaïl Haniyeh qui vit, lui, en exil au Qatar. Gaza, où le ministère de la Santé annonce un nouveau bilan officiel ce mardi, 37 658 morts. Le cardinal Pietro Parolin poursuit, lui, sa visite au Liban, pays enquisté dans une grave crise économique et sociale et déstabilisé par la guerre menée à sa frontière sud entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Le secrétaire d'État du Saint-Siège est venu visiter les œuvres de l'Ordre de Malte dans le pays du Cèdre, mais aussi s'entretenir avec des responsables politiques et religieux. Il doit participer ce mardi à une rencontre interreligieuse à Abkerké, le siège du patriarcat maronite dans les environs de Beyrouth. À 18h, nous entendrons l'un des responsables locaux de l'Ordre de Malte. À la une également de l'actualité internationale, la libération surprise de Julian Assange, l'Australien fondateur de Wikileaks, a signé un accord avec la justice américaine qui réclamait son extradition. Il doit passer devant un tribunal situé sur les îles Mariannes dans le Pacifique, territoire américain, mais ressortira libre. Un soulagement pour le lanceur d'alerte qui a passé 7 ans comme réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres, puis plus de 5 ans dans une prison britannique. Fiona O'Brien est la directrice du bureau de Reporters sans frontières à Londres.
À RSF, nous sommes énormément heureux, émus et surtout soulagés que cette injustice inimaginable auparavant touche enfin à sa fin. Julian Assange est maintenant dans un avion, a quitté le Royaume-Uni. D'après Wikileaks, on attend qu'il retrouvera sa liberté et sera réuni avec sa femme et ses enfants qui ne l'ont jamais vu en dehors d'une prison de sécurité en Australie. Julian Assange aurait été extradé envers les États-Unis. Il aurait fait face à potentiellement 175 ans de prison pour avoir publié des informations qui étaient non seulement vraies, mais d'énorme intérêt public. C'est l'affaire du journalisme, en fait. C'est que font les journalistes partout dans le monde. Donc, ça aurait été un précédent extrêmement dangereux pour le journalisme. On attend, en fait, les détails de l'accord qu'il aurait fait avec les États-Unis. Reste à voir exactement en quoi il consiste. Il est possible, d'après ce qu'on trouve dans la presse, que l'accord sera quand même en dessous d'une loi contre-espionnage qui serait une mauvaise chose pour la presse. Mais en gros, le fait que l'extradition n'aura pas lieu et le fait surtout que lui, il sera libre, c'est bien sûr une victoire pour la presse mondiale et pour les citoyens.
Fiona O'Brien de l'ONG Reporters sans frontières, elle répondait aux questions d'Augustine Asta. Une nouvelle journée de tension au Kenya ce mardi où le pays est paralysé par une grève générale pour protester contre la hausse des taxes voulues par le gouvernement. De nombreux Kenyans en particulier sont dans la rue, notamment dans la capitale Nairobi, pour s'opposer à cette politique. Les protestations qui ont déjà donné lieu à des échauffourées entre les manifestants et la police, nous y reviendrons dans notre édition de 18h. Un accord important dans le Golfe pour les travailleurs philippins. Le Koweït a levé son interdiction de visa pour ses ressortissants qui sont des milliers à travailler dans le secteur domestique comme l'aide à domicile. Les relations entre le Koweït et les Philippines qui s'étaient passablement dégradées après le meurtre en janvier 2023 d'un employé de maison philippin, jetant la lumière sur les difficiles, très difficiles conditions de travail de ses ressortissants. La correspondance régionale de Bastien Bory.
Une vieille affaire qui n'a toujours pas atteint son épilogue. D'un côté, le Koweït dépend de cette manœuvre asiatique dans le secteur des services à la personne. De l'autre, l'économie de nations comme celle des Philippines repose en partie sur les transferts d'argent de ces émigrés vers leur pays d'origine et qui se chiffraient à 40 milliards de dollars en 2022. Mais souvent, cet échange de bons procédés entre États se grippe et aux affaires de meurtres de travailleuses domestiques s'ajoute l'exfiltration de ressortissants philippins maltraités à qui Manille accorde secrètement des sauf-conduits permettant de quitter le Golfe. L'ambassade des Philippines au Koweït convoque même les employeurs violents sans l'autorisation des autorités locales qui répliquent en suspendant régulièrement la délivrance de visas pour les travailleurs asiatiques. Mais difficile de faire entendre raison au Koweït dont le bilan en matière de droits humains est contesté. Passeports confisqués, pas de salaire minimum, milliers de cas par an d'abus physiques et de harcèlement dans un pays qui compte de plus en plus sur des migrants venus cette fois du Kenya ou de Somalie où les gouvernements n'oseraient pas contrarier les riches États du Golfe. Bastien Bory à Dubaï, I24 pour Radio Vatican.
L'Union européenne décide de prolonger la protection temporaire accordée aux réfugiés ukrainiens et ce jusqu'au 4 mars 2026. Ils sont plus de 4 millions à avoir fui leur pays dans les pays voisins de l'Union européenne depuis le début de l'agression russe. Cette directive avait été déclenchée le 4 mars 2022, une semaine seulement après le déclenchement de la guerre. Et puis ce mardi marque par ailleurs le début des négociations officielles en vue d'une adhésion prochaine de l'Ukraine à l'Union européenne. Des négociations qui se tiennent à Luxembourg et qui concernent également la Moldavie. Une autre aide à l'Ukraine vient, elle, des États-Unis et ne concerne pas uniquement des armes cette fois-ci, mais des manuels scolaires. Il y a un mois, une attaque russe sur la ville de Kharkiv, deuxième ville du pays, avait détruit l'une des plus grandes imprimeries du pays. Et hier, Washington a annoncé une aide financière pour produire des manuels scolaires destinés aux élèves ukrainiens. Les précisions aux États-Unis de notre correspondant Edouard Mail.
3 millions de manuels scolaires pour l'Ukraine. Washington a annoncé une aide de 8 millions de dollars pour aider à l'impression de ses livres, livres destinés aux élèves de primaire. Près de 12 000 écoles ukrainiennes devraient recevoir ces ouvrages. Les impressions auront lieu en Ukraine. En attaquant ces imprimeries, la Russie attaque le système éducatif ukrainien, a justifié le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Les États-Unis vont se concerter avec l'Ukraine pour identifier les principaux niveaux scolaires qui ont besoin de ces ouvrages. L'annonce arrive également dans un contexte d'augmentation de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Washington a élargi il y a quelques jours son autorisation de frapper des cibles sur le territoire russe avec des armes américaines, à condition qu'il s'y trouve des troupes russes en train d'envahir le territoire. L'autorisation était jusque-là limitée à la région de Kharkiv. À Atlanta, Edouard Maille pour Radio Vatican.
Aide, toi aussi le pape a aidé. Manifeste par un petit geste de grande valeur symbolique ton amour et ta confiance envers le Saint-Père. Soutenons tous ensemble le Saint-Père dans l'annonce de l'Évangile et dans la charité envers ceux qui en ont le plus besoin. Les personnes et les familles en difficulté, les populations frappées par la guerre ou qui ont besoin d'assistance humanitaire. Va sur le site obolo-di-san-pietro.va et clique sur « Donner maintenant ».
Voilà un appel à la générosité pour se donner de Saint-Pierre. Avant de refermer ce journal, cette nouvelle de l'espace et cette première pour la Chine qui vient de rapporter sur Terre les premiers échantillons jamais récoltés sur la face cachée de la Lune. La sonde chinoise Chang'e 6 s'est posée ce mardi dans une zone désertique de la Mongolie intérieure dans le nord de la Chine. L'agence spatiale chinoise qui salue un succès complet de la mission. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 18h en direct de Rome. Vous serez accompagné par Xavier Sartre. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente après-midi.